Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour, ou bien de découvrir d'autres écrits de l'auteur choisi, et ce, tranquillement installé chez vous, en écoutant la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Bonjour chers auditeurs, nous arrivons déjà à la dernière émission de cette série sur Dino Buzzati et de ses nouvelles tirées de son livre « Le Car ». Nous vous reproposons « Le veston ensorcelé » et « Douce nuit ».
Le veston ensorcelé. Bien que j'apprécie l'élégance vestimentaire, je ne fais guère attention habituellement à la perfection plus ou moins grande avec laquelle sont coupés les complets de mes semblables. Un soir, pourtant, lors d'une réception dans une maison de Milan, je fis la connaissance d'un homme qui paraissait avoir la quarantaine et qui resplendissait littéralement à cause de la beauté linéaire, pure, absolue de son vêtement. Je ne savais pas qui c'était, je le rencontrais pour la première fois et pendant la présentation, comme cela arrive toujours, il m'avait été impossible d'en comprendre le nom. Mais à un certain moment de la soirée, je me trouvais près de lui et nous commençâmes à bavarder. Il semblait être un homme poli et fort civil, avec toutefois un soupçon de tristesse. Avec une familiarité peut-être exagérée, si seulement Dieu m'en avait préservé. Je lui fis compliment pour son élégance et j'osai même lui demander qui était son tailleur. L'homme eut un curieux petit sourire, comme s'il s'était attendu à cette question. « Oh, presque personne ne le connaît, dit-il, et pourtant c'est un grand maître, mais il ne travaille que lorsque ça lui chante, pour quelques clients seulement. Ah, de sorte que moi... Oh, vous pouvez essayer, hein, vous pouvez toujours. Il s'appelle Corticella. » Alfonso Corticella, rue Ferrara, au 17. Il doit être très cher, j'imagine. Je le pense, oui, mais à vrai dire, j'en sais rien. Ce costume, il me l'a fait il y a 3 ans, il ne m'a pas encore envoyé sa note. Corticella, rue Ferrara, au 17, vous avez dit. Exactement, répondit l'inconnu. Et il me planta là pour se mêler à un autre groupe. Au 17 de la rue Ferrara, je trouvai une maison comme tant d'autres et le logis d'Alfonso Corticella ressemblait à celui des autres tailleurs. Il vint en personne m'ouvrir la porte. C'était un petit vieillard aux cheveux noirs qui était sûrement teint. À ma grande surprise, il ne fit aucune difficulté. Au contraire, il paraissait désireux de me voir devenir son client. Je lui expliquai comment j'avais eu son adresse, je louai sa coupe et lui demandai de me faire un complet. Nous choisîmes un peignet gris, puis il prit mes mesures et s'offrit de venir pour l'essayage chez moi. Je lui demandai son prix. « Cela ne pressait pas, me répondit-il. Nous nous mettrions toujours d'accord. » Quel homme sympathique, pensais-je tout d'abord. Et pourtant, plus tard, comme je rentrais chez moi, je m'aperçus que le petit vieux m'avait produit un malaise. Peut-être à cause de ses sourires trop insistants et trop doucereux. En somme, je n'avais aucune envie de le revoir. Mais désormais le complet était commandé et en quelques 20 jours plus tard, il était prêt. Quand on me le livra, je l'essayai pour quelques secondes devant mon miroir. C'était un chef-d'œuvre. Mais je ne sais trop pourquoi, peut-être à cause du souvenir du déplaisant petit vieux, je n'avais aucune envie de le porter et des semaines passèrent avant que je me décide. Ce jour-là, je m'en souviendrai toujours. C'était un mardi d'avril et il pleuvait. Quand j'eus passé mon complet, pantalon, gilet et veste, je constatais avec plaisir qu'il ne me tiraillait pas et ne me gênait pas aux entournures comme le font toujours les vêtements neufs. Et pourtant, il tombait à la perfection. Par habitude, je ne mets rien dans la poche droite de mon veston, mais mes papiers, je les place dans la poche gauche, ce qui explique pourquoi ce n'est que 2 heures plus tard, au bureau, en glissant par hasard ma main dans la poche droite, que je m'aperçus qu'il y avait un papier dedans. Ah, c'est peut-être la note du tailleur. Non, c'était un billet de 10 000 lires. Je restais interdit. Ce n'est certes pas moi qui l'y avais mis. D'autre part, il était absurde de penser à une plaisanterie du tailleur Corticella, encore moins un cadeau de ma femme de ménage, la seule personne qui avait eu l'occasion de s'approcher du complet après le tailleur. Est-ce que ce serait un billet de la Sainte Farce ? Je le regardais à contre-jour, je le comparais à d'autres. Plus authentique que lui, c'était impossible. L'unique explication, une distraction de Corticella. Peut-être qu'un client était venu lui verser un acompte et à ce moment-là, il n'avait pas son portefeuille et pour ne pas laisser traîner le billet, il l'avait glissé dans mon veston, pendu à un cintre. Ce sont des choses qui peuvent arriver. J'écrasai la sonnette pour appeler ma secrétaire. J'allais écrire un mot à Corticella et lui restituer cet argent qui n'était pas à moi. Mais à ce moment-là, je ne saurais en expliquer la raison. Je glissai de nouveau ma main dans ma poche. « Qu'avez-vous, monsieur ? Vous ne vous sentez pas bien ?» me demanda la secrétaire qui rentrait alors. J'avais dû pâlir comme la mort. Dans la poche, mes doigts avaient rencontré les bords d'un morceau de papier qui n'y était pas quelques instants avant. « Non, ce n'est rien, dis-je, un léger vertige. Ça m'arrive parfois depuis quelque temps, sans doute un peu de fatigue. Vous pouvez aller, mon petit, j'avais à vous dicter une lettre, mais nous le ferons plus tard. » Ce n'est qu'une fois la secrétaire sortie que j'osai extirper la feuille de ma poche. C'était un autre billet de 10 000 lires. Alors je fis une troisième tentative et un troisième billet sortit. Mon cœur se mit à battre la chamade. J'eus la sensation de me trouver entraînée pour des raisons mystérieuses dans la ronde d'un conte de fées, comme ceux que l'on raconte aux enfants et que personne ne croit vrai. Sous le prétexte que je ne me sentais pas bien, je quittai mon bureau et rentrai à la maison. J'avais besoin de rester seule. Heureusement, la femme qui faisait mon ménage était déjà partie. Je fermai les portes, baissai les stores et commençai à extraire les billets l'un après l'autre aussi vite que je le pouvais, de la poche qui semblait inépuisable. Je travaillais avec une tension spasmodique des nerfs dans la crainte de voir cesser d'un moment à l'autre le miracle. J'aurais voulu continuer toute la soirée, toute la nuit jusqu'à accumuler des milliards. Mais à un certain moment, les forces me manquèrent. Devant moi, il y avait un tas impressionnant de billets de banque. L'important maintenant était de les dissimuler pour que personne n'en ait connaissance. Je vidai une vieille malle pleine de tapis et dans le fond, je déposai par liasse les billets que je comptais au fur et à mesure. Il y avait largement pour eux 50 millions. Quand je me réveillai le lendemain matin, la femme de ménage était là, stupéfaite de me trouver tout habillée sur mon lit. Je m'efforçai de rire en lui expliquant que la veille au soir j'avais bu un verre de trop et que le sommeil m'avait surpris à l'improviste. Une nouvelle angoisse. La femme se proposait pour m'aider à enlever mon veston afin de lui donner au moins un coup de brosse. Je répondis que je devais sortir tout de suite et je n'avais pas le temps de me changer. Et puis je me hâtai vers un magasin de confection pour acheter un vêtement semblable au mien au tout point. Je laisserai le nouveau aux mains de ma femme de ménage. Le mien, celui qui ferait de moi en quelques jours un des hommes les plus puissants du monde, je le cacherai en lieu sûr. Je ne comprenais pas si je vivais un rêve, si j'étais heureux ou si au contraire je suffoquais sous le poids d'une trop grande fatalité. En chemin, à travers mon imperméable, je palpais continuellement l'endroit de la poche magique. Chaque fois, je soupirais de soulagement. Sous l'étoffe, le réconfortant froissement du papier monnaie me répondait. Mais une singulière coïncidence refroidit mon délire joyeux. Sur les journaux du matin, de gros titres. L'annonce d'un cambriolage survenu la veille occupait presque toute la première page. La camionnette blindée d'une banque qui, après avoir fait le tour des succursales, allait transporter au siège central les versements de la journée, avait été arrêtée et dévalisée rue Palmanova par 4 bandits. Comme les gens accouraient, un des gangsters, pour protéger sa fuite, s'était mis à tirer. Un des passants avait été tué. Mais c'est surtout le montant du butin qui me frappa. Exactement 50 millions. Comme les miens. Pouvait-il exister un rapport entre ma richesse soudaine et le hold-up de ces bandits survenus presque en même temps? Cela semblait ridicule de le penser. Je ne suis pas superstitieux. Toutefois, l'événement me laissa très perplexe. Plus on possède et plus on désire. J'étais déjà riche, compte tenu de mes modestes habitudes, mais le mirage d'une existence de luxe effrénée m'éprenait, et le soir même, je me remis au travail. Maintenant, je procédais avec plus de calme et les nerfs moins tendus. 135 autres millions s'ajoutèrent au trésor précédent. Cette nuit-là, je ne réussis pas à fermer l'œil. Était-ce le pressentiment d'un danger ou la conscience tourmentée de l'homme qui obtient sans l'avoir mérité une fabuleuse fortune ou une espèce de remords confus? Aux premières heures de l'aube, je sautai du lit, m'habillai et courus dehors en quête d'un journal. Comme je lisais, le souffle me manqua. Un terrible incendie provoqué par un dépôt de pétrole qui s'était enflammé avait presque complètement détruit un immeuble dans la rue de San Cloro, en plein centre. Entre autres, les coffres d'une grande agence immobilière qui contenait plus de 130 millions en espèces avaient été détruits. Deux pompiers avaient trouvé la mort en combattant le sinistre. Dois-je maintenant énumérer un par un tous mes forfaits ? Oui, parce que désormais je savais que l'argent que le veston me procurait venait du crime, du sang, du désespoir, de la mort, venait de l'enfer. Mais insidieusement, ma raison refusait railleusement d'admettre une quelconque responsabilité de ma part. Et alors la tentation revenait. Et alors ma main, c'était tellement facile, se glissait dans ma poche et mes doigts, avec une volupté soudaine, étreignaient les coins d'un billet toujours nouveau. L'argent, le divin argent. Sans quitter mon ancien appartement, pour ne pas attirer l'attention, je m'étais acheté en peu de temps une grande villa, je possédais une précieuse collection de tableaux, je circulais en automobile de luxe et après avoir quitté mon emploi pour raison de santé, je voyageais et parcourais le monde en compagnie de femmes merveilleuses. Je savais que chaque fois que je soutirais de l'argent de mon veston, il se produisait dans le monde quelque chose d'abject et de douloureux. Mais c'était toujours une concordance vague qui n'était pas étayée par des preuves logiques. En attendant, à chacun de mes encaissements, ma conscience se dégradait et devenait de plus en plus vile. Et le tailleur ? Je lui téléphonais pour lui demander sa note, mais personne ne répondit. Via Ferrara, on me dit qu'il avait émigré, il était à l'étranger, on ne savait pas où. Tout conspirait pour me démontrer que, sans le savoir, j'avais fait un pacte avec le démon. Cela dura jusqu'au jour où, dans l'immeuble que j'habitais depuis de longues années, on découvrit un matin une sexagénaire retraitée asphyxiée par le gaz. Elle s'était tuée parce qu'elle avait perdu les 30 000 lires de sa pension qu'elle avait touchée la veille et qui avait fini dans mes mains. Assez, assez ! Pour ne pas m'enfoncer dans l'abîme, je devais me débarrasser de mon veston. Mais non pas en le cédant à quelqu'un d'autre, parce que l'opprobre aurait continué. Qui aurait pu résister à un tel attrait ? Il devenait indispensable de le détruire. J'arrivais en voiture dans une vallée perdue des Alpes. Je laissais mon auto sur un terre-plein herbeux et je me dirigeais droit sur le bois. Il n'y avait pas âme qui vive. Après avoir dépassé le bourg, j'atteignis le gravier de la Moraine. Là, entre deux gigantesques rochers, je tirai du sac tyrolien l'infâme veston, l'imbibai d'essence et y mis le feu. En quelques minutes, il ne resta que des cendres. Mais à la dernière lueur des flammes, derrière moi, à 2 ou 3 mètres, aurait-on dit, une voix humaine retentit. « Trop tard, trop tard !» Terrorisé, je me retournai d'un mouvement brusque, comme si un serpent m'avait piqué, mais il n'y avait personne en vue. J'explorais tout alentour, sautant d'une roche à l'autre pour débusquer le maudit qui me jouait ce tour. Rien, il n'y avait que des pierres. Malgré l'épouvante que j'éprouvais, je redescendis dans la vallée avec une sensation de soulagement, libre finalement, et riche heureusement. Mais sur le talus, ma voiture n'était plus là. Et lorsque je fus rentré en ville, ma somptueuse villa avait disparu, à sa place un pré, un culte, avec l'écriteau « terrain communal à vendre ». Et mes comptes en banque, je ne peux m'expliquer comment, étaient complètement épuisés. Disparu de mes nombreux coffres-forts, les gros paquets d'actions, et de la poussière, rien que de la poussière dans la vieille malle. Désormais, j'ai repris péniblement mon travail, je m'en tire à grand-peine, et ce qui est étrange, personne ne semble surpris par ma ruine subite. Et je sais que ce n'est pas encore fini. Je sais qu'un jour la sonnette de la porte retentira, j'irai ouvrir, et je trouverai devant moi ce tailleur de malheur avec son sourire abject pour l'ultime règlement de compte. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Passing Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach
me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was, he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, he was.
Yes, he was.
Preacher man, the only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, yes, he was. He was the sweet talking son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me.
I guess he was the son of a preacher man.
The only one who could ever teach me.
Sweet was the son of a preacher.
Douce nuit. Elle eut dans son sommeil un faible gémissement. À la tête de l'autre lit, assis sur le divan, il lisait à la lumière concentrée d'une petite lampe. Il leva les yeux. Elle eut un léger frémissement, secoua la tête comme pour se libérer de quelque chose, ouvrit les paupières et fixa l'homme avec une expression de stupeur, comme si elle le voyait pour la première fois. Et puis elle eut un léger sourire. « Qu'y a-t-il, chérie ? » ?»«
Rien, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens une espèce d'angoisse, d'inquiétude.
»« Tu es un peu fatiguée du voyage, chaque fois c'est la même chose, et puis tu as un peu de fièvre, ne t'inquiète pas. Demain, ce sera passé. »
Elle se tut pendant quelques secondes en le fixant toujours les yeux grands ouverts. Pour eux qui venaient de la ville, le silence de la vieille maison de campagne était vraiment exagéré. Un tel bloc hermétique de silence qu'il semblait qu'une attente y fût cachée, comme si les murs, les poutres, les meubles, tout retenait leur respiration. Et puis elle dit paisible, « Carlo, qu'y a-t-il dans le jardin ?»«
Dans le jardin ?»«
Carlo, je t'en prie, puisque tu es encore debout, est-ce que tu ne voudrais pas jeter un coup d'œil dehors ? J'ai comme la sensation qu'il
y a quelqu'un. Quelle idée ! Qui veux-tu qu'il y ait dans le jardin en ce moment ? Les voleurs ? Et il rit. Ils ont mieux à faire, les voleurs, que de venir rôder autour de vieilles bicoques comme celle-ci.
Oh, je t'en prie, Carlo, va jeter un coup d'œil. Il se leva, ouvrit la fenêtre et les volets, regarda dehors et resta stupéfait. Il y avait eu de l'orage l'après-midi et maintenant, dans une atmosphère d'une incroyable pureté, la lune sur son déclin éclairait de façon extraordinaire le jardin, immobile, désert et silencieux, parce que les grillons et les grenouilles faisaient justement partie du silence. C'était un jardin très simple, une pelouse bien plane, avec une petite allée aux cailloux blancs qui formait un cercle et rayonnait dans différentes directions. Sur les côtés seulement, il y avait une bordure de fleurs, mais c'était quand même le jardin de son enfance, un morceau douloureux de sa vie, un symbole de la félicité perdue, et toujours dans les nuits de lune, il semblait lui parler avec des allusions passionnées et indéchiffrables. Au levant, à contre-jour, et sombre par conséquent, se dressait une barrière de charme taillée en arche. Au sud, une haie basse de buis, au nord, l'escalier qui menait au potager, au couchant de la maison. Tout reposait de cette façon inspirée et merveilleuse avec laquelle la nature dort sous la lune et que personne n'est jamais parvenu à expliquer. Cependant, comme toujours, le spectacle de cette beauté expressive qu'on peut contempler, bien sûr, mais qu'on ne pourra jamais faire sienne, lui inspirait un découragement profond. Carlo, appela Maria de son lit inquiète en voyant qu'il restait immobile à regarder. Qui est là ? Il referma la fenêtre, laissant les volets ouverts, et il se retourna. Personne, ma chérie. Il y a une lune formidable. Je n'ai jamais vu une semblable paix. Il reprit son livre et retourna s'asseoir sur le divan. Il était 11h10. À ce moment précis, à l'extrémité sud-est du jardin, dans l'ombre projetée par les charmes, le couvercle d'une trappe dissimulée dans l'herbe commença à se soulever doucement par à-coup, se déplaçant de côté et libérant l'ouverture d'une étroite galerie qui se perdait sous terre. D'un bond, un être trapu et noirâtre en déboucha et se mit à courir frénétiquement en zigzag. Suspendu à une tige, un bébé sauterelle reposait, heureux, son tendre abdomen vert palpitait gracieusement au rythme de sa respiration. Les crochets de l'araignée noire se plongèrent avec rage dans le thorax et le déchirèrent. Le petit corps se contorsionna, détendant ses longues pattes postérieures une seule fois. Déjà, les horribles crocs avaient arraché la tête et maintenant ils fouillaient dans le ventre. Des morsures jaillit le suc abdominal que l'assassin se mit à lécher avidement. Tout à la volupté démoniaque de son repas, il n'aperçut pas à temps une gigantesque silhouette sombre qui s'approchait de lui par derrière. Serrant encore sa victime entre ses pattes, l'araignée noire disparut à jamais entre les mâchoires du crapaud. Mais tout dans le jardin était poésie et calme divin. Une seringue empoisonnée s'enfonça dans la pulpe tendre d'un escargot qui s'acheminait vers le jardin potager. Il réussit à parcourir encore 2 centimètres avec la tête qui lui tournait, puis il s'aperçut que son pied ne lui obussait plus, et il comprit qu'il était perdu. Bien que sa conscience fût obscurcie, il sentit les mandibules de la larve assaillante qui déchiquetait furieusement des morceaux de sa chair, creusant d'atroces cavernes dans son beau corps gras et élastique dont il était si fier. Dans la dernière palpitation de son ignominieuse agonie, il eut encore le temps de remarquer avec une lueur de réconfort que la larve maudite avait été harponnée par une araignée loup et lacérait en un éclair. Un peu plus loin, tendre idylle. Avec sa lanterne allumée par intermittence au maximum, une luciole tournoyait autour de la lumière fixe d'une appétissante petite femelle, languissamment étendue sur une feuille. Oui ou non ? Oui ou non ? Il s'approcha d'elle, tenta une caresse, elle le laissa faire. L'orgasme de l'amour lui fit oublier à quel point un prêt pouvait être infernal une nuit de lune. Au moment même où il embrassait sa compagne, un scarabée doré d'un seul coup l'éventra irrévocablement, le fendant de bout en bout. Son petit fanal continuait à palpiter implorant. Oui ou non ? Que son assaillant l'avait déjà à moitié englouti. À ce moment-là, il y eut un tumulte sauvage à un demi-mètre de distance à peine, mais tout se régla en quelques secondes. Quelque chose d'énorme et de doux tomba comme la foudre d'en haut. Le crapaud sentit un souffle fatal dans son dos. Il chercha à se retourner, mais il se balançait déjà dans l'air entre les serres d'un vieux hibou. En regardant, on ne voyait rien. Tout dans le jardin était poésie et divine tranquillité. La kermesse de la mort avait commencé au crépuscule. Maintenant, elle était au paroxysme de la frénésie. Et elle continuerait jusqu'à l'aube. Partout, ce n'était que massacre, supplice, tuerie. Des scalpels défonçaient des crânes, des crochets brisaient des jambes, fouillaient dans les viscères, des tenailles soulevaient les écailles, des poinçons s'enfonçaient, des dents trituraient, des aiguilles inoculaient des poisons et des anesthésiques. Des filets emprisonnés, des sucs érosifs liquéfiés des esclaves encore vivants. Depuis les minuscules habitants des mousses, les rotifères, les tardigrades, les amibes, les técamibes, jusqu'aux larves, aux araignées, aux scarabées, aux mille pattes, oui, jusqu'aux orvées, aux scorpions, aux crapauds, aux taupes, aux hiboux, l'armée sans fin des assassins de grand chemin se déchaînait dans le carnage, tuant, torturant, déchirant, éventrant, dévorant, comme si dans une grande ville, chaque nuit, Des dizaines de milliers de malandrins assoiffés de sang et armés jusqu'aux dents sortaient de leurs tanières, pénétraient dans les maisons et égorgeaient les gens pendant leur sommeil. Là-bas, dans le fond, le carouseau des grillons vient de se taire à l'improviste, gobé méchamment par une taupe. Près de la haie, la petite lampe de la luciole broyée par la dent d'un scarabée s'éteint. Le chant de la rainette, étouffé par une couleuvre, devient un sanglot. Et le petit papillon ne revient plus battre contre les vitres de la fenêtre éclairée, les ailes douloureusement froissées. Il se contorsionne, prisonnier dans l'estomac d'une chauve-souris. Terreur, angoisse, déchirement, agonie, mort pour mille et mille autres créatures de Dieu, voilà ce qu'est le sommeil nocturne d'un jardin de 30 mètres sur 20. Et c'est la même chose dans la campagne environnante, et c'est toujours la même chose au-delà des montagnes aux reflets vitreux sous la lune, pâle et mystérieuse. Et dans le monde entier, c'est la même chose, partout. À peine descend la nuit, extermination, anéantissement et carnage. Et quand la nuit se dissipe et que le soleil apparaît, un autre carnage commence, avec d'autres assassins de grand chemin, mais d'une égale férocité. Il en a toujours été ainsi depuis l'origine des temps et il en sera de même pendant des siècles, jusqu'à la fin du monde. Maria s'agite dans son lit avec de petits grognements incompréhensibles. Et puis de nouveau, elle écarquille les yeux épouvantés. Oh, Carlo, si tu savais quel terrible cauchemar je viens de faire. J'ai rêvé que là dehors, dans le jardin, on était en train d'assassiner quelqu'un. Allons, tranquillise-toi un peu, ma chérie. Je vais venir me coucher, moi aussi. Carlo, ne te moque pas de moi, mais j'ai encore cette étrange sensation. Je sais pas, moi, c'est comme si dehors, dans le jardin, il se passait quelque chose. Mais qu'est-ce que tu vas penser là ? Oh, mais ne me dis pas non, Carlo, je t'en prie, je voudrais tant que tu donnes un coup d'œil dehors. Il secoue la tête et sourit, il se lève, ouvre la fenêtre et regarde. Le monde repose dans une immense quiétude, inondé par la lumière de la lune. Encore cette sensation d'enchantement, encore cette mystérieuse langueur. Dors tranquille, mon amour, il n'y a pas âme qui vive dehors. Je n'ai jamais vu une telle paix.
Voilà, nous arrivons au terme de nos lectures des nouvelles tirées du cas de Dino Buzzati. J'espère que vous avez pris plaisir à les réentendre cet été et que nous vous avons donné l'envie de relire Dino Buzzati. C'est déjà la fin de l'été, nous reprendrons en septembre le rythme de nos émissions mensuelles où nous retrouverons en direct Hervé et Catherine. À très bientôt.